Eusko Ikaskuntza, Société d'études basques et la mairie du Staritz. Hommage à Eugène Goyeneche. Ustaritz, 2 octobre 1999. Jean Aritchelar, Eugène Goyeneche et le bulletin du Musée Basque.
Ayant pris les fonctions de directeur du Musée Basque en janvier 1962 et réorganisé la Société des Amis du Musée Basque au cours de cette même année, je lançais l'idée d'une reprise du bulletin du Musée Basque lors de la réunion du conseil d'administration du 3 avril 1963. Et j'exposais que grâce à des rentrées de cotisations et aux réserves financières de la Société, il semblait possible de recommencer la publication de la revue si appréciée avant-guerre. Cette revue pourrait être ce qu'elle a été, c'est ce que je disais à ce moment-là, c'est-à-dire le support intellectuel et scientifique du musée. Grâce à des collaborateurs sérieux, elle pourrait promouvoir les études régionales et permettre aux jeunes générations de s'intéresser à la vie du musée. Le premier à intervenir à ce moment-là fut Eugène Goyeneche. Monsieur Goyeneche fait remarquer qu'outre l'orientation scientifique, dont le point de départ pourrait être la monographie d'objets ou de documents divers entrés au Musée Basque dans le courant de l'année, l'existence de la revue permet une politique d'échange avec d'autres revues scientifiques et peut favoriser l'entrée au musée de divers ouvrages qui seraient envoyés pour des comptes rendus bibliographiques. D'autres interviennent aussi. Et finalement, le principe de la relance du bulletin du Musée Basque étant accepté à l'unanimité, M. Richelard demande qu'un comité de lecture soit constitué. Outre le secrétaire général, futur directeur gérant, il sera composé des divers chefs de section, Messieurs Barietti, Goyeneche, Dassens et Chanoine Lafitte. Conçu comme trimestriel, le bulletin du Musée Basque reparaissait à la fin du premier trimestre 1964 sur 48 pages. Un total de 200 pages environ dans l'année, et commençait une existence qui dure toujours. Eugène Goyeneche a non seulement assisté à sa naissance, mais l'a favorisé. Notre collaboration commune, aussi bien au Musée Basque qu'au Bulletin ou à la Société des Amis, dont il fut le président à la suite de M. Dassens, les liens d'amitié qui nous unissaient ont permis un renouveau dans les études et recherches basques, chacun d'entre nous exerçant aussi des fonctions universitaires, lui à Pau et moi à Bordeaux. Je n'ai jamais fait appel en vain à Eugène Goyeneche. Il était archiviste de profession, puisqu'ancien élève de l'école des Chartes, devenu universitaire à la suite de la soutenance de sa thèse de troisième cycle sous la direction du professeur René Lafont. Colloques, congrès, journées d'études, rencontres, conférences ont été organisés en tenant compte de la complémentarité qui pouvait exister entre nous et avec les membres du conseil d'administration de la Société des Amis du Musée Basque. C'est ainsi que le 30 novembre 1963 a lieu au Musée Basque l'hommage à Paul Raymond, à l'occasion du centenaire du dictionnaire topographique des Basses-Pyrénées. Il est organisé conjointement par M. William Longa et Eugène Goyeneche, qui apporteront leur collaboration scientifique, auquel il faudra ajouter celle de M. Charles Samaran, membre de l'Institut et ancien directeur des Archives nationales, et de M. Bayot, directeur des services d'archives des Basses-Pyrénées. Le numéro double des 3e et 4e trimestres du bulletin est entièrement consacré à ce colloque. Eugène Goyeneche étant l'auteur de l'article « Paul Raymond et les études basques », ainsi que du compte-rendu du colloque et du catalogue de l'exposition qui eut lieu à cette occasion. Dans son article, Eugène Goyeneche montre l'importance du dictionnaire topographique des Basses-Pyrénées, tant du point de vue basque que gascon. Sur les 9000 noms de lieux, 1800 intéressent la toponymie basque, rivières, ruisseaux, montagnes, cols, forêts, villages, hameaux, écarts, lieux-dits, etc. Il en montre aussi les limites, par suite de la méconnaissance de sources, en particulier celle des archives de Navarre, extrêmement précieuse pour la Basse-Navarre, ou celle de Londres pour le Labour, qu'il utilisera lui-même pour sa thèse de troisième cycle. On sent déjà à quel point Eugène Goyeneche en véritable archiviste, s'intéresse à la toponymie basque. Attaché de recherche au CNRS à cette époque, il est en train d'opérer le virage qui l'amènera des archives vers l'université. On sait que lorsque le 25 juillet, date de la Saint-Jacques, tombe un dimanche, l'année est déclarée année sainte à Saint-Jacques-de-Compostelle et en Espagne. Pour célébrer cette année jacobite, le bulletin du musée basque du troisième trimestre 1965 contient deux importants articles. Voie d'accès en Navarre et carrefour des chemins de Saint-Jacques du docteur Uruti Beheti, spécialiste de la question, et iconographie de Saint-Jacques au Pays basque d'Eugène Goyeneche. L'historien, qui est aussi historien d'art, est à son affaire. Grâce à une bibliographie abondante signalée en début d'article, Eugène Goyeneche examine les diverses représentations de Saint-Jacques tout au long des siècles. Celle du Portico de la Gloria à Compostelle, celle de Saint-Cernin à Toulouse, de Moissac, de Silos, de Santa Maria de Tera, province de Zamora, de Mimizan, afin de définir d'une manière diachronique l'évolution du personnage, ses habits, ses attributs, bourdon, coquille, chapeau, du Saint-Jacques pèlerin au Saint-Jacques Matamoros. Il procède ensuite à la description des diverses statues se trouvant en Pays Basque Nord, cathédrale de Bayonne, portail et clé pendante de la chapelle de Saint-Jérôme, chapelle de Arambens, église de Hélette, de Bidard, fronton de l'église du Rugne, église de Saint-Pé-sur-Nivelle, de Souraïde, ainsi que la statuette qui surmonte la chaire de l'église d'Aetz. Il fait aussi mention de la statuette de la chapelle de Donaïki, à Ibar, ainsi que de la peinture naïve représentant au-dessus de l'autel Saint-Jacques en pèlerin sur un ciel étoilé et rappelle les tableaux des églises de Vielnave, de Sussotte et de Serres, quartier d'Asquin, panorama remarquable de cette iconographie illustrée par cette photographie. Cependant, l'historien se fait humble en fin d'article. Et je cite, « Cette étude n'a pas la prétention d'être complète. Il doit exister encore d'autres représentations de Saint-Jacques sur les retables des églises basques, dans les nombreuses chapelles rurales dont la recension n'a jamais été faite. Souhaitons que cet article et l'intérêt soulevé cette année par la renaissance du pèlerinage, que dirait-il maintenant, nous sommes en 1965, la renaissance du pèlerinage de Saint-Jacques incite les informateurs que nous remercions d'avance à combler les lacunes de notre documentation. Eugène Goyeneche n'en a pas fini avec le pèlerinage. En effet, l'année suivante, le bulletin du musée basque du deuxième trimestre 1966 est consacré à un document inédit, un manuscrit de chansons et routiers des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, entièrement rédigé en basque et datant de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Les textes sont publiés en facsimilé. Je donne la traduction des chansons et en fais l'analyse. Je confie à Eugène Goyeneche l'étude du routier, qui était mieux placé que lui pour accomplir cette tâche. L'entreprise était ardue. Eugène Goyeneche a réussi à décrypter chacun des lieux de cet itinéraire en utilisant le routier du Béarnais RAC 1790 et les trois volumes de Las Peregrinaciones a Santiago de Compostela de Vázquez de Parga, La Carra et Uriarriu. Si Nahoa et Nájera et Burbus Burgos, lieu assez facile à décrypter. Par contre, grand cavalier et petit cavalier sont difficiles à résoudre si l'on ne se réfère pas à l'ouvrage de base cité plus haut, qui indique que Santa Maria de las Tiendas est connue dans les itinéraires français sous le nom de grand cavalier et San Nicolás del Real Camino sous le nom de petit cavalier. C'est dire avec quelle minutie et quelle rigueur scientifique a travaillé Eugène Goyeneche sur ce manuscrit d'un très grand intérêt pour les études basques. Le dernier article que Eugène Goyeneche a offert au bulletin du musée basque a paru quelque temps après son décès. Pour le 25e anniversaire de la renaissance du bulletin, j'avais souhaité qu'un numéro spécial célébrât cet événement, un numéro hommage auquel participeraient tous les auteurs d'articles parus pendant ce quart de siècle. C'est ainsi que Eugène Goyeneche écrivit « Les Labourdins modifient pour une plus grande équité la répartition de l'empereur royal 1568 ». Il en découle que le labour est obligé de se plier aux exigences royales, mais qu'il garde néanmoins suffisamment d'autonomie pour modifier la répartition imposée par le pouvoir royal, qui a taxé un certain nombre de maisons du Staritz, de l'Arsor, d'Ainoa, de Souraïde, d'Espelette, de Sars, de Saint-Pé, du Rugne, de Cibourg et de Saint-Jean-de-Luz. En fait, il s'agit d'un mouvement de solidarité, animé d'un esprit de justice à l'intérieur de chacune des paroisses labourdines. Du même coup, le document sert l'onomastique basque dans la mesure où sont publiés les noms de toutes les maisons participantes. En annexe, Eugène Goyeneche a tâché de les localiser et a fourni, dans la mesure où ces maisons existaient encore, le nom du XVIe siècle donné par le document et sa forme actuelle grâce à des correspondants de chacune des communes. Ainsi, Eugène Goyeneche restait dans le droit fil de sa thèse en allant au-delà du Moyen-Âge. Si la publication d'articles est le but premier d'une revue, il n'en existe pas moins un autre champ d'étude d'une importance réelle qui est le compte rendu bibliographique. Sur ce point, Eugène Goyeneche a rendu de grands services au bulletin du Musée Basque. Un enseignant-chercheur, un universitaire, se doit de se tenir au courant de toutes les publications concernant son champ de recherche. Ainsi, Eugène Goyeneche a fait bénéficier les lecteurs du bulletin d'analyses sérieuses, soit de thèses, soit d'ouvrages divers entrés à la bibliothèque du Musée Basque, qui n'a cessé de s'enrichir grâce à une véritable politique d'échange. Parmi les thèses et travaux d'études et de recherche, il convient de signaler la thèse de troisième cycle de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale, Arnaud, sur l'apprentissage du français et les techniques audiovisuelles dans une région bilingue, le Pays Basque. Celle de Claude Chauchat, sur les industries préhistoriques de la région de Bayonne, du Périgordien ancien à l'Asturien. La thèse de droit de Jean-Claude Laronde, sur le nationalisme basque dans l'œuvre de Sabino Alana Goyri, qui est certainement la thèse qui a le plus intéressé Eugène Goyeneche, puisqu'il consacre 10 pages du bulletin au compte rendu qu'il en fait. On y sent une certaine jubilation de sa part devant une étude bien menée, solide, certainement la meilleure étude consacrée à la pensée des fondateurs du nationalisme basque. Certes, il n'est pas toujours d'accord avec Jean-Claude Laronde, et il l'écrit, mais il ne tarit pas d'éloges sur la manière dont a été menée la thèse, et je cite, « ouvrage capital pour la compréhension d'événements actuels, jusqu'ici plus copieusement commentés que vraiment expliqués ». La thèse de Martine Lambert l'a beaucoup intéressé aussi, thèse d'histoire. Les Basco-Navarrais dans l'ordre militaire de Santiago recherchent sur le tissu social et mental des chevaliers, 1580-1620. Elle représente un apport très important sur la société basque et ses rapports avec la monarchie espagnole. Mais Eugène Goyeneche s'intéresse aussi aux TER, travaux d'études et de recherche, réalisés par les étudiants pour l'obtention de la maîtrise, qu'ils soient d'histoire comme ceux de Jacqueline Bombay, les ordres mendiants et les œuvres charitables à Bayonne à la fin du Moyen-Âge, de Jacques Romaté, notes et documents pour servir à l'histoire des abbayes cisterciennes et prémontrées des gaves et de l'Adour au Moyen-Âge, de Claude Asnar, Gazeta de Oficio del Gobierno de Vizcaya, 1810-1813, Índice y Sumario, ou encore de géographie, comme celui de Madame Joly, l'habitat rural dans les bassins de la Nive et de la Nivelle. En fait, grâce à cette chronique bibliographique et à ses collaborateurs parmi lesquels Eugène Goyeneche, le bulletin du Musée Basque rend compte de l'évolution de la recherche basque, en particulier en Pays Basque de France, pendant un bon quart de siècle. Rien de ce qui est basque n'est indifférent à Eugène Goyeneche. On s'en aperçoit à la lecture très éclectique des ouvrages mentionnés, que ce soit l'histoire de l'âme basque de Roland Moreau ou la Gastronomia Basconum de Juan Domingo de Echevarría, ou encore les ouvrages scolaires sur l'histoire et la géographie du Pays Basque Nord de Maurice Sachs et R. Rubon, sans jamais oublier l'Outre-Bidassois et les publications adressées au Musée Basque. Une autre facette du talent littéraire d'Eugène Goyeneche peut s'admirer dans les portraits qu'il dresse à l'occasion du décès d'un collaborateur ou d'un donateur, qu'il s'agisse de José de Villalonga, un patricien basque, ou Ramiro Arrué, le peintre auquel il consacre plusieurs pages. Mais le meilleur se trouve dans l'article « L'homme », où il dresse un magnifique portrait du chanoine Pierre Lafitte, aussi bien physique que moral. À titre d'exemple, son béret de travers, sa soutane à laquelle il était resté fidèle, sans exclure le costume civil, quitte à remplacer une cravate oubliée par une ceinture de pyjama bleu ciel, sa cape à bretelles, originalité, distraction dont il était le premier à rire, car cet esprit si malin ne s'exerça jamais qu'à ses propres dépens. Ou encore le rayonnement de Pierre Lafitte à partir de cette chambre si admirablement décrite. Et je crois que c'est un morceau d'anthologie, du moins je le considère comme tel. De cette chambre, recouverte par la marée montante des strates de papier et de livres, de ce prestigieux Capharnaüm partaient des lettres, des articles, des manuscrits de moins en moins lisibles, mais toujours aussi lumineux pour qui avait le courage de les déchiffrer. Et combien de bascologues émérites ou novices ont-ils descendu cette colline, éclairée ou enrichie? L'école de Laffitte s'étendait au monde entier de la bascologie, paroisse plus étendue que les autres et inoubliable. Le bulletin du musée basque a rendu hommage aussi bien à René Lafon qu'à Pierre Laffitte. Il n'a pas manqué de le faire pour Eugène Goyenech, c'est le numéro 130. Que l'on me permette, et l'on me permettra, 9 années plus tard, de terminer cet article par ce que j'ai pu écrire à cette occasion. J'ai déjà dit la dette que le bulletin du musée basque a contractée envers Eugène Goyenech. Le musée basque lui-même était l'objet de toutes ses attentions. Voulant rendre à chacun son dû, je dirais que j'ai toujours trouvé, auprès du chanoine Laffitte, comme auprès d'Eugène Goyenech, toutes les aides et tous les conseils désirés. Je n'ai jamais frappé en vain à leur porte, soit au petit séminaire, soit à Oualdea. Je suis entré dans la chambre de l'un comme dans le bureau de l'autre pour y voir un amoncellement de livres et de papiers en apparence en désordre, mais l'un comme l'autre, après un instant de réflexion, allait tout droit vers l'ouvrage qui donnait la clé de l'énigme et répondait à la question que j'avais posée. Ils faisaient tous deux partie du conseil d'administration de la Société des Amis du Musée Basque, et le jour où M. Dassens décida d'abandonner son poste de président, c'est tout naturellement à Eugène Goyenech qu'échut l'honneur de lui succéder. Son attachement au musée était profond. Il en suivait l'évolution avec plaisir, donnant son avis sur la restructuration de la salle du mobilier et du costume, sur celle de la pêche et celle des métiers artisanaux. Il éprouvait une joie sincère au développement de la bibliothèque et des archives, suggérant l'acquisition d'ouvrages essentiels dont la nécessité n'échappait pas à sa vaste érudition. Il fut, il convient de le dire, un grand serviteur du musée basque.
Eugène Goyenech et le bulletin du musée basque, vous venez de suivre l'intervention de Jean Aritschelar lors de l'hommage à Eugène Goyenech qui s'est déroulé à Ustaritz le 2 octobre 1999. Pour conclure avec cet hommage à Eugène Goyenech qui s'est déroulé, je vous le rappelle, le 2 octobre 1999 à Ustaritz, voici l'intervention de Manej Goyenech consacrée à Dominique Garat.
C'est le 18 novembre 1999 que mourait Dominique Garat, dit l'aîné, que l'on confond parfois avec Dominique Joseph ou inversement. J'ai pensé que dans cette journée d'hommage à Eugène Goyenech, on pouvait aussi associer cet acteur important de la Révolution. J'ai réalisé que maintenant, à la place d'acteur, on dit opérateur, c'est la même chose. Les deux étant d'Ustaritz. Et cette association, il me semble, n'enlève rien à l'hommage à Eugène Goyenech. Et il faut dire que, ou il me semble du moins que la vie, l'œuvre et la pensée de Dominique Garat sont restées et restent un peu sous silence. Ainsi, le bicentenaire de sa mort n'est pas tellement commémoré. Et je suis un peu étonné qu'il n'ait pas été commémoré ni tellement par ce que j'appellerais le mouvement basque en général, à part l'Université basque d'été, ni par ses héritiers directs, par exemple. Enfin, ses héritiers directs sont nombreux. Les loges maçonniques, parce que nous avons là un grand personnage de la franc-maçonnerie, ni d'autres mouvements, alors que nous avons un grand penseur, un grand acteur de la période révolutionnaire. Et mon propos et de présenter quelques grands aspects de Dominique Garat. Je vais passer rapidement sur ses origines familiales, et qui sont assez connues. Et pour parler davantage de sa carrière à Bordeaux en tant qu'avocat, et ensuite de son travail à Paris, ou plus exactement d'abord à Versailles, et pendant la période révolutionnaire, avant qu'il ne revienne à Ustaritz. Et ce n'est qu'une présentation d'ensemble, et il reste encore bien des documents pour celui qui veut approfondir la pensée, l'œuvre de ce personnage. Et des matériaux existent. Moi, j'ai travaillé notamment le fonds documentaire de la bibliothèque municipale de Bayonne, où on trouve pas mal de discours en tant qu'avocat au Parlement de Bordeaux et des discours aussi qu'il faisait devant l'Académie royale de Bordeaux. Et ce fonds existe au moins une partie à Bayonne, mais je pense que d'autres fonds de ces discours existent aussi à Bordeaux, dans les archives de la Gironde. Ensuite, pour son travail à l'époque des États généraux, puis dans la première période de la Révolution de 1789, j'ai dépouillé rapidement, et je ne puis que convier quelqu'un à continuer cette recherche, et j'ai dépouillé rapidement deux journaux de la période révolutionnaire. D'une part, le Moniteur universel, et d'autre part, le Journal des Assemblées nationales. Si je faisais un sondage, cela va de soi, qu'a fait Dominique Garat, dans quel domaine a été intervenu Dominique Garat, ainsi que son frère d'ailleurs, tout le monde sait, sur la question du découpage départemental. Et quand on relève l'ensemble de ses discours à l'Assemblée nationale constituante, ou l'ensemble de ses prises de position, j'ai relevé dans le Moniteur universel 41 prises de position et des discours très importants. Le Journal des Assemblées nationales recoupe ces prises de position, il y en a moins, mais le fonds documentaire le plus important reste le Moniteur universel. Et sur ces 41 prises de position, les interventions sur la question du découpage départemental représentent 5 discours importants, mais vous avez bien d'autres prises de position, par exemple sur la question de la suppression des ordres religieux, sur la loi de guerre, sur les lois sur la succession, ça regarde Maïté Lafourcade là davantage, la situation carcérale, il y a une certaine... Et tout, ces discours ont une certaine actualité. Et ensuite, les prises d'intervention les plus importantes concernent le domaine judiciaire. Et cela va de soi, c'était un avocat, et sur la constitution civile du clergé aussi, 2 ou 3, et donc dans le domaine judiciaire, 10. Et voilà. Alors, de ce fonds documentaire que je présente ici rapidement, et que pouvons-nous retirer? Quelle est l'image qui ressort de Dominique Garat? C'est un peu différent peut-être du traitement historiographique qu'on lui a réservé traditionnellement. Un premier trait de caractère ou de pensée plutôt, nous avons là, cela va de soi, le représentant de la culture bourgeoise du XVIIIe siècle, rationaliste, éclairé, et c'est une culture différente de cette fin du XXe siècle. Et on peut résumer peut-être par une de ces phrases, l'idéal du bonheur, voilà, l'homme éclairé du XVIIIe siècle, donc le labourdin aussi, qui était Dominique Garat, et qu'est-ce qu'il cherche? L'idéal du bonheur, c'est dans le triomphe de la justice et de la raison. C'est un leitmotiv qui revient sans cesse dans ses discours, le triomphe de la justice et de la raison. Et on voit que c'est un thème du XVIIIe siècle. Et nous avons aussi la notion de patrie. Et la patrie, ce n'est pas dans le sens où on peut le comprendre actuellement, c'est davantage un territoire où l'ensemble des citoyens connaîtraient le bonheur grâce à l'exercice de la justice et de la raison. Et deuxième trait de caractère ou de pensée, Dominique Garat est hostile aux structures sociales d'ancien régime. N'interprétez pas mal, surtout à Ustaritz, je ne parle pas des structures d'ancien régime comme le Bilsa du Labo, ce n'est pas ça, ce sont des structures sociales. Et nous avons des phrases assez véhémentes sur la dénonciation du despotisme, de l'absolutisme, de l'injustice, l'injustice despotique, qu'il dit. Troisième point, et s'il faut résumer Dominique Garat, je pense que c'est avant tout, en tant qu'avocat, cela se comprend aussi, un législateur. Et bien sûr, il a trouvé, ainsi que son frère, mais c'est une pensée du XVIIIe siècle aussi, un modèle pour les législateurs, ce sont les Basques ou le Pays Basque. Et voici une phrase, toujours pareille, mais là nous avons aussi l'idéal de Rousseau, l'avis du législateur est d'assurer la tranquillité des citoyens. C'est tout à fait d'actualité. Et ou une autre définition de Rousseau, qu'il répète d'autres fois dans ses discours, la volonté générale fait loi, c'est-à-dire que pour lui, la loi n'émane pas de l'État, et à cette période, il parle davantage de la nation, de la patrie, la loi doit émaner de la volonté générale des citoyens qui recherchent le bonheur, la justice et la raison. Ça peut faire l'objet de bien de sujets de philosophie. Voilà, trois traits, je passe rapidement, et vous aurez l'ensemble dans les actes. Et pour arriver à un quatrième point, et quand Dominique Garat, donc, qui est son œuvre importante, se situe dans la période révolutionnaire de l'Assemblée nationale constituante, et pendant la Convention, c'est un moment difficile pour lui, mais il réussit à échapper à la guillotine, ainsi que son frère, et il se retrouve en 1795 maire d'Ustaritz. Donc, aux archives de la mairie, ici, nous avons tout un fonds documentaire important pour étudier le travail de Dominique Garat comme maire d'Ustaritz. À cette époque, la municipalité recouvrait le canton, d'ailleurs. Enfin, ça, vous le savez, pour la période révolutionnaire. Je me suis attaché à étudier une seule question, étant donné que dans cette période-là, on met en place les écoles, l'instruction qu'on disait à cette époque, et quel a été le comportement ou quelle a été la politique de Dominique Garat. Et nous avons un acte très intéressant du 30 Ventose en 14, donc nous sommes en 1796, et il préside le jury d'examen pour nommer le nouvel instituteur à Ustaritz, et qui s'appelle d'ailleurs Pierre Claverie. Je soupçonne d'être d'Anglette, ce Pierre Claverie. Et donc, on examine ses capacités pour enseigner. On vérifie s'il connaît la loi constitutionnelle, s'il connaît les droits de l'homme, et s'il est citoyen français, et on vérifie son attachement inviolable à la République, aux principes moraux de cette loi, etc. On vérifie ses capacités à grammaire, et qu'est-ce que le verbe, etc. Et ensuite, il a une phrase en basque qu'il doit traduire en français, et voici, et là il s'agit de vérifier ses capacités en langue basque, parce qu'il doit enseigner aussi en langue basque. Nous sommes en 1796, et voici la traduction et le commentaire que fait Dominique Garat en tant que président de ce jury. Dans les communes basques, un instituteur doit savoir très bien le basque et le français. Autrement, les écoliers pourraient oublier le basque sans apprendre le français. Et en tant que chercheur, une question, est-ce que Dominique Garat est le seul à exiger cette capacité pour l'enseignement en Pays Basque en 1796? Il y a une piste de recherche. J'ai présenté rapidement une petite conclusion générale. Quand on étudie les discours de Dominique Garat à Bordeaux, au Parlement de Bordeaux, et à l'Académie royale, les discours de Dominique Garat à l'Assemblée nationale constituante, son œuvre ici en tant que maire du Staritz, il me semble qu'il est, comment dire, à la croisée d'un double héritage, où je vous donne au moins en méditation, si n'est pas, ou en interrogation, s'il n'est pas à la croisée d'un double héritage. Et l'héritage de la Révolution française, cela va de soi, événement fondateur des valeurs républicaines, des valeurs citoyennes, d'universalisme, et pour lui peut-être de justice au service du bonheur des peuples, mais, et je ne dis pas que ces valeurs n'existaient pas avant, surtout dans ce lieu du Vilsard du Labour, parce que le Vilsard du Labour était déjà aussi un espace d'exercice de la citoyenneté. L'un n'enlève pas l'autre. Donc voilà ce premier héritage, il est là, clair, dans les discours de Dominique Garat. Le deuxième héritage aussi est clair. Et Dominique Garat pose d'une manière claire l'héritage de l'identité du Pays basque. Je ne dis pas l'identité basque parce qu'on peut parler d'identité occitane, bas et bretonne ou gasconne, etc., ou française, mais l'identité basque est mal interprétée, donc parlons de l'identité du Pays basque, le Pays basque au moins existe. Et dans le cadre de la construction de ce nouvel État issu de la Révolution, par rapport à l'héritage de l'identité du Pays basque, Dominique Garat pose d'une manière très claire deux exigences qui sont là dans ses discours, ses interventions. D'une part, un cadre administratif respectant l'identité du Pays basque, et vous savez à quel cadre administratif je fais référence, c'était à ce cadre administratif que faisait référence Dominique Garat, et ensuite un système d'enseignement respectant cette même identité du Pays basque. Alors, pour une dernière minute d'intervention, si vous voulez, il s'est trouvé que le 23 septembre, tout en préparant ou en mettant en forme cette communication, j'ai ouvert aussi la page d'un grand journal régional, journal régional, et nous avions à la fois la présentation de l'hommage à Eugène Goyeneche, ça va rester une page historique, et à côté j'avais aussi un point de vue, Small is Beautiful, et c'est vrai, quelqu'un qui était inquiet, mais moi aussi, de l'usage public et de la raison, tout à fait d'accord, et des valeurs de citoyenneté. Je crois qu'effectivement, il faut que l'on soit, et que l'on soit vigilant vis-à-vis de ces valeurs de citoyenneté, de ces valeurs républicaines aussi. Il faut que l'on soit aussi vigilant à l'appauvrissement de la pensée politique et tout à fait d'accord, mais ceux qui, et celles qui sont inquiets de ces problèmes-là, moi, je les invite, ce sont des questions légitimes, tout à fait. Mais je dirais à ces gens-là qu'ils doivent se ressourcer afin qu'il y ait au moins une possibilité de ressourcement dans la pensée féconde d'un grand acteur ou opérateur de la Révolution française, que s'appelle Dominique Garat. Et ils y trouveront une synthèse entre les idéaux de la République et les exigences de l'identité du Pays basque. Merci.
C'est avec l'intervention de Manesh Guyenesh consacrée à Dominique Garat que s'achève la retransmission de certaines des interventions de cet hommage à Eugène Guyenesh qui s'est déroulé le 2 octobre 1999 à Ustaritz à l'initiative d'Eusko I Kashkunsa, la société d'études basques et de la mairie d'Ustaritz. Eusko I Kashkunsa, société d'études basques et la mairie d'Ustaritz. Hommage à Eugène Guyenesh. Ustaritz, 2 octobre 1999.